Bonjour à tous. Alors, pour être davantage en adéquation avec le thème de la journée d'études, on a quelque peu modifié le titre de notre communication. Et donc, nous vous proposons toujours une réflexion sur le vêtement au collège, mais que nous avons intitulé « Se vêtir au collège, les violences insidieuses de la conformité ». Alors, se présenter au regard des pairs sans respecter les normes convenues plus ou moins implicitement, sans être conforme à ce qu'attend le groupe, peut déclencher des moqueries, de l'isolement, du rejet. La souffrance pour certains préadolescents vient du fait qu'ils ne parviennent pas à comprendre les codes de l'entre-pair ou qu'ils n'ont pas les moyens d'y répondre, que ce soit des moyens financiers ou alors parce qu'ils sont bons élèves ou leaders. Ces comportements sont d'autant plus violents qu'ils sont peu visibles. Et ne concernant pas directement les apprentissages, les adultes ne semblent pas les considérer à leur juste importance. Donc cette communication s'organise autour du plan suivant. Nous allons d'abord vous présenter les enquêtes et les matériaux recueillis. Et ensuite, nous parlerons de la pression de l'évaluation sociale des apparences, de la violence du regard des autres et du préadolescent collégien. Donc la communication se base sur deux enquêtes. J'ai moi-même réalisé la première entre février et avril 2011 dans le cadre de mon mémoire de Master 1. À partir d'entretiens longs effectués auprès de petits groupes d'élèves de 6e, 5e, 4e et 3e dans un collège favorisé.
Voilà, et la deuxième enquête, alors les données viennent de la partie qualitative d'une enquête que nous avons réalisée avec Mme Delalande et Mme Filizetti en juin 2011, donc cette année, sur une enquête sur les transitions CM2 6e, 3e seconde, sur deux secteurs de collège, donc avec des 6e, avec des 3e, et auprès des CM2, des écoles de ces deux secteurs de collège. Donc deux enquêtes dans ce que Alain Vernou a qualifié ce matin de géographie sociale différente, et donc des facteurs qui interviennent avec des forces différentes, vous allez l'entendre dans la parole des jeunes.
Alors le vêtement occupe une place de plus en plus importante sur le plan social. La mode est devenue un modèle de même-té, c'est ce qu'indique Grose, et c'est-à-dire qu'elle offre la possibilité d'adopter des comportements vestimentaires standardisés, tout en promettant à chacun l'individualité du look. Donc, cette importance des apparences, elle touche également les préadolescents, où sur là je parle par exemple des marques qui offrent aux préadolescents la possibilité de se construire individuellement, tout en appartenant au groupe et en se sentant bien et beau, bien dans leur peau et beau. Alors on peut s'interroger sur la façon dont les préadolescents parviennent à articuler les tensions entre une autonomie croissante accordée par les adultes, de fortes pressions de l'entre-pair et la pression médiatique de la mode et de la publicité. Alors en étant confrontés à autant de pressions, les préadolescents cherchent à la fois une évaluation sociale et une évaluation de leur popularité pour éviter de se retrouver stigmatisés ou isolés, ce qui pourrait entraîner des conséquences lourdes sur leur perception d'eux-mêmes et sur leur réussite, qu'elle soit sociale ou scolaire. Donc Émilie, élève de 6e, nous dit « Il ne faut pas s'habiller n'importe comment si on veut avoir une bonne image, si on ne veut pas passer pour pas avoir mauvaise réputation ». Mais cette quête de reconnaissance sociale et de popularité peut aussi basculer dans une forme de dépendance. Boudeliès parle d'addiction aux vêtements, qui est comparable à celle que peuvent connaître les drogués ou les alcooliques. Et cette addiction, elle est aussi visible dans les discours des préadolescents. Tom nous dit par exemple qu'il y a des élèves, ils ne parlent que de ça.
Alors, ce qu'on s'aperçoit également, c'est que cette évaluation sociale, cette évaluation de la popularité, elle passe par le choix des amis. Les amis, c'est extrêmement, extrêmement important. Bien choisir ses amis, bien choisir avec qui on est, parce que c'est une période où les réseaux amicaux sont très actifs. Ce matin, Alain Vernou a parlé de phénomènes constamment dynamiques, hein, avec des goûts. Alors là, en l'occurrence sur le vêtement, il y a des goûts qui rapprochent, qui rassurent, qui peuvent rassurer en tout cas. Et puis il y en a d'autres qui éloignent et qui inquiètent. Donc les mouvements, c'est l'image, et il a donné une image de processus centripète et de processus centrifuge. On est dans cette... Donc on a Sonia qui nous dit, ben oui, avant de mettre un truc, moi je demande l'avis à Anna et on se dit des choses entre amis. Et se dire des choses entre amis, c'est extrêmement, extrêmement important parce que ce groupe d'amis, il permet d'avoir un premier aperçu de l'effet que l'on va produire sur les pairs, de ce que l'on peut faire ou de ce que l'on ne peut pas faire. Donc ça, c'est très important. Un groupe d'amis aussi qui permet de se sentir plus fort, notamment quand il s'agit d'adopter... de faire un choix un petit peu original. Là, le petit clan peut être un soutien. Donc, chaque groupe a ses particularités et peut, on va dire, faire plus facilement face aux critiques qu'un individu isolé.
On se rend compte que les jeunes inquiétés appréhendent de se présenter au regard de leur père. Donc, Anna l'explique de cette façon. De la primaire au collège, là, ça change vachement. En primaire, tu faisais pas attention. Ce qui a changé, c'est le regard qu'ont les autres. Au collège, si t'es mal habillé, les gens vont moins venir vers toi. C'est moins facile de s'intégrer. L'image, c'est hyper important. Il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui sont bien habillés, qui sont genre connus, populaires. Et d'un autre côté, tu as tous les gens à qui personne ne parle, qui sont dans leur coin. Et justement, c'est ces gens-là qui sont pas très bien habillés. Personne ne leur parle. C'est dur pour eux de se faire des amis. Ils sont moins bien acceptés. Donc on voit bien qu'il s'agit pour les préadolescents de comprendre les normes vestimentaires et comportementales convenues, plus ou moins implicitement par le groupe, afin d'être conformes à ce qu'attend le groupe, ou du moins à ce que l'on imagine qu'attend le groupe. Donc il s'agit de ne pas être bizarre, de ne pas être différent pour ne pas se retrouver isolé ou mal aimé ou encore rejeté.
Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve ça dans les enquêtes auprès des CM2. Les jeunes de CM2, ils expriment très tôt leurs craintes, ces craintes d'être victimes de moqueries, de mise à l'écart, de méchanceté. Et là, à la question qu'on leur posait, qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté par les autres ? On leur posait cette question-là. La majorité des enfants de CM2 indiquent qu'une des premières conditions, c'est de ne pas se faire remarquer, d'être conforme. Alors on va avoir une petite fille qui nous dit, il faut respecter les règles. Un petit garçon qui dit, il faut essayer de faire comme eux. Une autre petite fille dit, il faut être à la mode, ne pas te faire remarquer quand tu arrives. On a tout un tas d'exemples dans ce registre-là. Très vite, donc avant même d'arriver au collège, ces futurs préadolescents, parce qu'on peut considérer que ce sont encore des enfants à l'école, enfin ça c'est à discuter, mais ils prennent conscience du fait que pour être acceptés par les pairs, ils vont devoir être conformes aux codes et aux normes du groupe d'âge, sans quoi la sanction, et on peut parler réellement de sanction, la sanction du regard des autres peut s'avérer extrêmement pénible à vivre tout au long de la scolarité. Cependant, on a quand même, même si c'est une minorité, on a quand même, malgré cette pression de la conformité, quelques enfants qui montrent qu'ils sont aussi capables de se démarquer et d'affirmer leur personnalité. Petite fille qui nous dit, il ne faut pas faire une autre, il faut rester soi-même. Et quand on reprend les travaux de David Le Breton, on voit bien, quand il montre que la préadolescence est une période de fragilité dans la construction identitaire, on voit bien que le vêtement, dans cette période-là, joue un rôle extrêmement important, dans la mesure où il permet de donner à voir qui on est. Alors, on se cache, certains se dévoilent, mais en tout cas, le vêtement est un support visible de la personnalité de celui qui le porte. C'est pour cette raison que certains vont estimer qu'il est important de ne pas faire comme tout le monde et peut-être de mettre en avant certains aspects de leur personnalité. Donc ils vont se démarquer cette conformité. On a Maxence qui dit « on ne va pas t'obliger à t'habiller comme tu veux, il faut d'abord que ça te plaise à toi-même ». Mais ce qu'on ressent, c'est que ce soit au niveau des CM2 ou au niveau des 3e, c'est cette tension qu'il y a chez eux, puis qu'ils sont poussés à rechercher dans le même temps un comportement conforme, un vêtement conforme, et puis cette idée d'être un peu original, un peu de se singulariser par rapport aux autres. Et ça, c'est compliqué.
Mais alors, en s'exposant au regard des autres, certains préadolescents pensent aussi que presque tout est possible. Ils s'habillent alors de manière très marquée pour faire passer un message. C'est notamment visible chez certaines jeunes filles qui prennent des risques en s'exposant trop, d'intimité et en sortant alors des cadres posés par le groupe de pairs. Elles apparaissent donc trop extravagantes, trop décalées en âge, trop provocantes, ou encore hors normes avec des tenues ou des couleurs inappropriées. Laïla nous dit par exemple, il ne faut pas passer trop pour une prostituée, genre décolleté plongeant, c'est pas des trucs à mettre au collège. Et Anna ajoute, des filles comme Marie, elles se prennent pour des jeunes de 20 ans, elles veulent grandir trop vite. Donc en fait, le plus dérangeant pour les préadolescents, c'est cette exhibition de l'intimité chez certaines filles. Un mouvement que Serge Tisseron appelle l'extimité. Et en fait, il semble que ça traduise une confusion entre les espaces intimes, privés et publics, et le fait de donner à voir de manière exagérée son intimité à travers l'espace public. Donc il est important de rester dans les normes d'âge et de ne pas chercher à se vieillir. Parce que comme le dit Maxence, on n'a que 14 ans, on n'est pas non plus des vieux. Alors les décalages peuvent aussi s'expliquer par la stylisation des goûts au niveau des apparences. Le choix des styles et leur combinaison devient alors très important et très codifié. Alors dans leur style, que ce soit par exemple les gothiques, les hippies, les émos, les groupes présentent le plus souvent des choix cohérents dans le choix des vêtements et des accessoires qu'ils portent, des musiques qu'ils écoutent, des programmes qu'ils regardent à la télévision, des radios. Et CNET indique que tout cela permet de dérouler des scénarios de vie qui s'accomplissent sous le regard du groupe des pairs, qui lui est alors prêt à sanctionner toute erreur de stylisation vestimentaire. Donc ceux qui dérogent à la règle et qui utilisent à mauvais escient les différents styles sont regardés de travers, voire raillés. Donc Laïla nous dit « Tu vas pas mettre des trucs roses pétants, jaune canari, c'est l'affiche, on dirait un Pokémon ». Mais malgré cela, il est quand même bien vu d'être capable d'assumer un style très particulier. En tout cas de pouvoir assumer son style et celui de son groupe, de chercher à marquer une part d'originalité. C'est le cas par exemple de Karim qui dit « J'aime pas les gens qui n'ont pas de style et qui copient le style de tout le monde ». Donc encore une fois, il ne faut pas être trop en décalage avec les pairs, mais aussi être capable d'assumer sa propre personnalité et son originalité, ce qui n'est pas toujours évident. Alors un autre motif pour être en décalage avec les pairs, ce sont les marques. En tout cas, elles peuvent l'être pour les préadolescents issus de milieux favorisés. Pour eux, les marques sont un moyen d'être populaire, parce qu'ils assimilent la marque à ce qui est beau. Augur nous dit, les gens, ils ne regardent pas comment c'est, ils regardent la marque. Et par conséquent, ceux qui ne peuvent pas avoir de marque subissent des moqueries. On leur dit qu'ils s'habillent mal, ce qui peut créer un sentiment d'infériorité ou en tout cas un sentiment de frustration chez certains. C'est le cas par exemple de Tom qui dit « Ils viennent te dire que toi tu t'habilles mal parce que c'est pas de la marque ». Mais inversement, porter des marques et se montrer peut être mal vu ou associé à de la vantardise, surtout quand c'est fait de manière trop prononcée. Maxence dit par exemple « Ça peut aussi faire, tu te la pètes ». Donc encore une fois, c'est une question d'équilibre. Pour ne pas subir les regards négatifs, il faut porter des marques, mais pas trop, et surtout ne pas trop l'afficher.
Alors cette adhésion au groupe, on voit aussi qu'elle n'implique pas forcément une adhésion automatique et irréfléchie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas systématiquement une mise en conformité au groupe, et certains parviennent à résister donc à ces comportements de mimétisme du groupe de pairs. Ce qu'on s'aperçoit, c'est quand on cherche pourquoi, en grande majorité, c'est parce qu'ils ont des ressources. Ils ont des ressources. Alors, il y a plusieurs types de ressources. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a le clan, le petit clan, qui permet de résister et d'assumer des choix qui vont être différents ensemble. Laetitia qui nous dit, nous, on se montre tous nos vêtements, on achète des trucs ensemble, on aime les mêmes vêtements, on va faire un budget collectif, on va échanger. C'est-à-dire un micro, qui permet de montrer peut-être un peu d'originalité. Deuxième ressource, c'est l'argent. Karim, il a de l'argent. Il a de l'argent, donc il explique bien qu'il a les moyens de cultiver une originalité authentique, entre guillemets. Moi, j'aime pas avoir les affaires des autres, j'aime pas avoir les affaires que les autres ont. Bon, il y a cette, on a ce, il y a ce moyen. Il y a une autre ressource qui est le fait d'être bon élève. David et Esther, ce sont des bons élèves. Donc, ils ont un regard sur la prise de risque par rapport aux vêtements, le fait de se démarquer. Ils trouvent ça plutôt original. Ils trouvent que les gens n'ont pas honte. Enfin, ils ont un autre regard. Ils ont un regard assez intellectuel sur ce type de comportement. En tout cas, ils estiment que ça peut être assumé pour contourner le sentiment de honte. Et puis, autre ressource, c'est la popularité. Augur est populaire et selon la définition de Tom qui est en cinquième, être populaire c'est connaître à peu près tout le monde dans le collège, c'est ça être populaire. Et quand on est populaire, on peut se démarquer du faire comme tout le monde, à condition de ne pas en faire trop, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire tout est toujours une question d'équilibre. Donc pour ne pas souffrir, il faut se plier au code de l'entrepère ou pouvoir proposer une autre alternative. Et ça dépend des ressources qu'on a. Mais ce qu'on va voir, c'est que ces accommodements, ils dépendent aussi de la transition dans laquelle est positionné le préadolescent. C'est-à-dire qu'on va distinguer des 6e, 5e qui semblent rechercher beaucoup plus activement la reconnaissance des pairs et être beaucoup plus en conformité, et puis des 3e et 4e qui semblent plus autonomes, en tout cas moins soumis à cette pression des pairs, plus acteurs de leur choix.
Alors effectivement, les 6e et les 5e apparaissent particulièrement attachés au groupe de pairs. Pour eux, le plus important, c'est de pouvoir être intégré par le groupe d'âge, et pour cela, ils privilégient les normes du groupe. Anna, qui est en 5e, le dit elle-même, il faut rester dans les normes. Donc, ils ont tendance à porter un regard négatif sur ceux qui, au contraire, affichent un look particulier ou un look très prononcé. Donc, Laïla qui disait tout à l'heure, c'est l'affiche. Donc, en fait, les 6e et les 5e se cherchent encore et il semble qu'ils soient encore dans la séparation d'avec l'enfance. Donc, entre la séparation d'avec l'enfance et l'agrégation au groupe des préadolescents. Par contre, les 4e et les 3e ne sont plus vraiment dans la même optique, puisque eux sont déjà dans la transition entre le préadolescent collégien et l'adolescent lycéen. Et certains apparaissent beaucoup plus autonomes par rapport au groupe et plus acteurs dans leur choix vestimentaire. C'est le cas par exemple d'Enzo, qui dit « Je préfère m'aimer moi et pas plaire aux autres, que pas m'aimer et plaire aux autres ». Et de la même manière, ils sont plus tolérants vis-à-vis des autres, et notamment de ceux qui osent adopter des looks particuliers et voyants. David dit « Il faut s'assumer, c'est vachement bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas honte, je trouve ça vachement bien ». Il y a d'autres marques d'hétérogénéité dans le groupe préadolescent, notamment entre les garçons et les filles, puisqu'ils ne semblent pas subir la pression sociale des apparences de la même façon. Les filles sont visiblement beaucoup plus sensibles à cette pression. Elles se sentent obligées de faire attention à ce qu'elles portent et de se faire belles. L'obligation, c'est un terme qui revient même chez eux. Donc Anna explique ainsi que c'est un peu un concours entre les filles. Enfin, c'est plus les filles qui font attention. Une fille, c'est plus coquette généralement. Les garçons, ils ne sont pas obligés de prendre soin d'eux. Donc pour les garçons, la question des apparences, elle semble moins pesante. Ils paraissent se sentir moins pressés par le regard des autres pour faire attention à leur tenue vestimentaire. En tout cas, c'est ce que pensent surtout les filles, à l'image de Charline qui nous dit « Les mecs, ils peuvent se ramener avec des énormes jogging. Au pire, ils s'en fichent. » On sent presque poindre un petit peu de jalousie dans son discours. On peut donc se demander si c'est une question de pression sociale et de choix, puisque Laïla nous dit « Il y a moins de fringues chez les garçons, il y a moins de choix chez les garçons que chez les filles. » Et Tom ajoute « Oui, s'il y avait plus de choix, ce serait différent. » Dans l'acquisition des codes et des normes du groupe, les préadolescents ne sont pas tout à fait seuls. Ils peuvent notamment compter sur leurs aînés, que ce soit leurs grands frères ou leurs grandes sœurs, qui vont alors leur servir de guide à travers les exigences plutôt complexes, on l'a vu, du groupe de pairs. Anna dit, par exemple, « Ma grande sœur, je lui demande, comme elle est au lycée. » Donc les aînés de la famille sont des guides. Et on voit aussi qu'Anna considère sa sœur comme un modèle. Pour les plus jeunes, en fait, les aînés sont même parfois idéalisés, puisque eux, ils ont déjà réussi à intégrer les codes du groupe de pères. Et au fur et à mesure qu'ils intègrent les codes et les normes, les préadolescents aiment pouvoir initier leur cadet à ces codes. C'est le cas par exemple d'Annabelle qui dit à propos de son petit frère « Il s'en fichait, et puis maintenant que je prends soin de mes habits et tout, du coup il suit. Et donc du coup, quand il va faire les magasins avec ma mère, il m'emmène aussi. » Donc il y a vraiment... on voit vraiment qu'ils prennent très à cœur leur rôle de guide pour ce qui est des grands frères et des grandes sœurs. Et ce rôle est aussi particulièrement apprécié, ou en tout cas il semble particulièrement apprécié par les cadets, puisque c'est une initiation qui est bienvenue. Et cette initiation, elle a même parfois lieu avant l'entrée au collège, ou pour les CM2 aussi, par exemple.
Alors pour conclure... On a vu que le vêtement, il part, dans l'idée de parure, hein, il part le corps, le dévoilant ou le dissimulant. Ça dépend des situations. Mais surtout, on s'habille pour se mettre en avant ou pour ne pas se faire remarquer dans le groupe, par jeu de séduction, voire de provocation, ou pour afficher son originalité. Les vêtements, en tout cas, permettent aux préadolescents de tester les réactions qu'ils suscitent auprès de leur père, en grande partie pour être rassurés. Mais de temps en temps, ils peuvent être sanctionnés parce que ces derniers dénoncent des choix qui ne sont pas partagés, pour les raisons qu'on a évoquées. Alors, nous considérons que les contraintes et les normes vestimentaires du groupe de pères représentent, dans certaines situations, de réelles violences insidieuses dans le sens où c'est des choses qui sont assez peu visibles et qui n'ont pas des effets forcément immédiats, mais qui peuvent avoir des effets à plus long terme. On n'a pas eu le temps d'aborder cet aspect-là, mais on peut revenir dans la discussion sur le décrochage scolaire, sur l'isolement, sur... Donc mise à l'écart, isolement, sentiment de honte, sentiment d'être mal aimé, perte d'estime de soi, discrimination sociale. On a vraiment des situations assez difficiles. Donc ce qu'un auteur comme Aït El-Kadhi indique, c'est que finalement chaque passage, là en l'occurrence nous avons travaillé sur CM2 6e et sur ces enfants de 3e, ces préadolescents de 3e, un passage, c'est un événement de redéploiement de la figure sociale. Chaque préadolescent va vouloir faire apparaître une nouvelle image de lui-même. Donc faire bonne figure et ne pas perdre la face sont des urgences pour le préadolescent, sinon il risque de ne pas exister socialement dans son groupe de pères. Mais on voit bien la difficulté pour eux de trouver leur place ou de rester à une place qui leur est attribuée, parce qu'ils ne sont pas encore grands, mais ils ne sont plus vraiment petits, parce qu'ils ne sont pas vraiment femmes ou hommes, ou quelquefois parce qu'ils veulent être trop femmes. Je dis trop femmes parce que la situation de trop homme, on la trouve moins. Alors, peut-être pour ouvrir parce qu'on ne l'a pas abordé, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'école a un rôle à jouer? Est-ce que l'école peut intervenir dans le contexte du quadrillage qu'a évoqué et des normes scolaires qu'a évoqué Alain Vergnoux ce matin? Parce que on s'aperçoit que le vêtement... Les vêtements ne sont pas les seules représentations de soi, bien évidemment. Ils sont accompagnés de comportements, de postures, de gestes, de langage. Ce qui est déroutant aujourd'hui à l'école, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau quand même, hein. Ce qui est profondément déroutant aujourd'hui, c'est que ces représentations des cultures juveniles, elles émergent à l'école, alors qu'auparavant, elles étaient relativement cantonnées dans l'espace privé ou l'espace intime. Donc là, il y a un mélange. Alors, question, hein, est-ce que l'école doit réglementer davantage? Caroline a travaillé sur les règlements intérieurs, on n'a pas pu les évoquer, mais elle a travaillé sur que dit l'école là-dessus, comment elle réglemente ça. Donc, est-ce qu'elle doit réglementer de manière stricte? Il y a tout le débat sur l'uniforme. Quel est le rôle des parents? là-dedans, on n'a pas abordé, mais on a fait un gros travail aussi là-dessus. Les enfants dénonçant eux-mêmes l'irresponsabilité des parents qui prennent pas leur responsabilité par rapport à ça et qui laissent quand même certains de leurs copains aller au collège sans avoir compris les codes. Enfin, on a des discours tout à fait intéressants là-dessus. Mais peut-être peut-être la question qui nous intéresserait le plus ou qui serait peut-être la meilleure façon de la poser, je dirais, ce serait de dire comment travailler cette question avec les jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire comment les associer à une réflexion et comment... je crois qu'il y a un vrai travail dans les établissements scolaires à faire, qui n'est pas seulement une sanction posée par l'adulte, mais qui est aussi tout un travail, au-delà du vêtement, sur cette entrée massive des cultures juvéniles dans la culture scolaire. Voilà, nous vous remercions.